Passe croisée, c'est le magazine du rugby en Orisère et c'est sur Couleur FM. Bonjour à tous et bienvenue dans Passe croisée, le magazine du rugby en Orisère, toujours sur Couleur FM. Passe croisée qui va jouer cette semaine en position de troisième ligne centre, car c'est déjà le numéro 8 de ce magazine. Et comme d'habitude, nous démarrons cette émission par les résultats du week-end. Un week-end où il ne faisait pas forcément bon voyager, puisque du côté de la fédérale une élite, le CS Bourgoin-Jallieu reprenait la route en direction de Limoges. Le voyage retour a dû être un petit peu long hein, pour les joueurs de Jean-Henri Thubert et les quelques supporters bergaliens qui avaient fait le déplacement. Les Ciel et Grenats ont été dominés de bout en bout par une équipe de Limoges qui menait déjà 18 à 9 à la mi-temps avec deux essais au compteur. Beaucoup de ballons tombés côté isérois, ajouté à une touche défaillante et une indiscipline qui s'est notamment traduite par deux cartons blancs pour les jeunes Poissard et Turel. Vous savez, les cartons blancs, ce sont ceux qui sont distribués pour faute répétée. Donc Limoges s'est envolé dans le deuxième acte avec trois essais supplémentaires, tandis que le compteur des Bergaliens restait bloqué à 9 petites unités. Score final 40-9 pour les Hauts-Viennois qui prennent le bonus offensif. Les Bergaliens rétrogradent bien évidemment au classement général puisqu'ils sont désormais 8e de ce classement de Fédéral 1 élite. Ça s'est un petit peu mieux passé pour le 16 Vienne qui recevait son voisin Villeurbanne. Victoire 28-9. Essentiellement grâce à la réussite des deux buteurs viennois, 12 points pour Petella et 9 pour Vernissa, le CS Vienne remonte, lui, à l'inverse du CSBJ, remonte à la 6e place de cette poule 4 de Fédéral 1. En Fédéral 2, Saint-Savin a effectué le court déplacement jusqu'à Mézieux, hein, dans le Rhône, dans la banlieue lyonnaise, avec le secret espoir de rattraper son faux pas à domicile du week-end précédent face à Rumilly. On vous en avait parlé, les Saint-Savinois étaient plutôt bien partis puisqu'ils menaient à la mi-temps. Mais ils se sont finalement inclinés sur le score de 29-26. Mais ils prennent néanmoins le point de bonus défensif. Le Saint-Savin Sportif pointe désormais à la 7e place de cette poule 3 de Fédéral 2. En Fédéral 3, l'AS Mida Saint-Marcel-Bel-Accueil, l'île d'Abo a repris sa marche en avant en disposant à domicile de Saint-Jean-de-Bournay sur le score sans appel de 39-3. C'était un des derbies qui vont être très, très importants tout au long de cette saison en Fédéral 3. Bonus offensif à la clé pour les rouges et blancs de Saint-Marcel-Bel-Accueil, l'île d'Abo. Cette victoire qui leur permet de retrouver le podium à la 3e place qu'ils occupent désormais derrière Tournon-Tain et Saint-Marcelin. Dans cette même poule, hein, les Vallons de la Tour jouaient gros puisqu'ils étaient en bien mauvaise posture au classement général et qu'ils recevaient la lanterne rouge Cessin. Eh bien, ils se sont imposés sur le score sans appel de 31-15. Une victoire de surcroît bonifiée qui donne de l'air au classement au vert et noir. Ils sont désormais 9e, juste devant Saint-Jean-de-Bournay, donc qui s'est incliné du côté de Saint-Marcel-Bel-Accueil, l'île d'Abo. On enchaîne donc tout de suite avec les matchs du week-end prochain. Le CSBJ, comme l'ensemble de la Fédérale 1 élite, sera au repos le week-end prochain. Prochain match hein, pour les Ciel et Grenats. Nous y serons bien sûr avec Couleur FM. Ce sera le dimanche 12 novembre à noter. Hein. Pour la première fois cette saison, le CSBJ va jouer le dimanche 15h au stade Pierre Rajon, hein, le dimanche 12 novembre. Le week-end prochain, le CS Vienne, lui, se rendra de son côté à Mâcon. Ce sera dimanche à 15h. Mâcon, déplacement difficile pour les Viennois, puisque Mâcon est leader de la poule 4 de Fédéral 1 avec une seule défaite en 6 matchs. Et donc un match sans doute délicat à aborder pour les Viennois qui n'ont pas toujours été très en réussite à l'extérieur. En Fédéral 2, alors là, ça sera le gros choc du week-end prochain. Saint-Savin va recevoir, ce sera samedi à 18h30, au stade Pierre Rajon, et ce sera Vinet, troisième de la poule et qui est dans une belle dynamique avec notamment le week-end dernier une victoire bonifiée 45-0 face à Bellegarde. Vinet de surcroît entraîné par Jean-François Cou, hein, figure bergalienne historique et qui fera son retour à Rajon, non pas en tant que joueur puisqu'il joue désormais du côté de Valence Romand, mais en tant qu'entraîneur. Et c'est le match hein, que Couleur FM a choisi de suivre avec bien sûr plein d'interviews d'avant-match et d'après-match, les réactions des entraîneurs, des joueurs. Tout ça, ce sera pour le numéro 9 de Passe Croisée. On jouera également en Fédéral 3. Les équipes nord-iséroises affronteront des adversaires bien différents puisque l'AS Mida attendra de conserver sa place sur le podium en se déplaçant chez la Lanterne Rouge, donc du côté de Cessin, qui compte 6 défaites en autant de matchs. L'occasion donc pour les joueurs du vice-président Bernard Potet, qu'on écoute souvent sous l'antenne de Couleur FM, de marquer de nouveaux points. Ce sera un peu plus difficile pour les Vallons de la Tour qui seront en déplacement chez le deuxième de la poule, hein, Saint-Marcelin, et également pour Saint-Jean-de-Bournay qui recevra lui le leader Tintournon, qui reste tout simplement sur 6 victoires en 6 matchs. Ces deux rencontres se déroulent également le dimanche à 15h. Allez, on va tout de suite partager une petite pause musicale. Cette semaine, nous la partageons avec Thomas Hazier et Ghost City. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième mi-temps de Passe Croisée. Et on enchaîne tout de suite donc avec la partie magazine, cette fois de Passe Croisée. Vous vous en souvenez peut-être, nous avions échangé il y a quelques semaines de cela avec Grégory Pouillot sur l'évolution du rugby, lui qui a traversé, on va dire, la décennie des années 2000, l'évolution du rugby vers plus de combats, vers moins d'évitements. Et nous avons finalement choisi de poursuivre cette réflexion. Alors nous sommes allés à la rencontre de Cédric Godridge, qui est à la fois le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'UFOLEP, mais qui est aussi et surtout le coordonnateur de l'école de rugby du Loup. Alors l'UFOLEP, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une fédération agréée par le ministère des Sports, membre du Comité national olympique et sportif français. C'est surtout la première fédération sportive multisport en France qui présente à la fois l'ambition d'éduquer les jeunes français au sport, mais aussi d'avoir une vraie réflexion sur la société d'aujourd'hui et notamment sur ce que le sport peut apporter en matière d'éducation. Alors Cédric Godridge, il a double casquette, hein, donc il est directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes de l'UFOLEP, mais il est donc coordonnateur du Loup. Et petit correctif par rapport à ce qu'il dit dans l'interview, ou plutôt par rapport à ma question, les formations dont il parle à propos de l'école du Loup sont vraiment des formations internes qui sont décalées de ce que propose l'UFOLEP. Il est professionnellement patron de l'UFOLEP en région. Il est, à titre bénévole, coordonnateur de l'école de rugby du Loup. On l'écoute tout de suite. C'est vraiment une interview assez riche et qui apporte un nouvel éclairage sur ce débat sur l'évolution du rugby français.
Bonjour Cédric Godridge. Merci d'avoir accepté l'invitation de Couleur FM pour essayer d'alimenter un petit peu ce débat sur le rugby français qui agite tous les médias. Alors vous êtes à la fois directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes de l'UFOLEP et aussi, à titre bénévole, vous êtes coordonnateur de l'école de rugby du Loup. Alors vous encadrez à la fois des éducateurs et aussi beaucoup d'enfants. Vous avez quel regard, vous, sur l'évolution récente du rugby, sur ce côté qu'on lui reproche un peu tout physique ?
Ben bonjour, merci de m'inviter. Ben alors pour le rugby, effectivement, on se rend compte, ça c'est du constat, c'est pas de moi, mais qu'il y a une accidentologie exponentielle d'année en année. On a vu par exemple de manière assez frappante sur les demi-finales du Top 14 l'année dernière, je crois 8 ou 9 commotions cérébrales sur deux matchs. Donc quand même des signes qui font un peu froid dans le dos, et effectivement on se dit qu'il faut sortir de ce rugby de combat et à l'excès, et de revenir peut-être au sport originel qui est un sport d'évitement, tout simplement.
Alors vous êtes coordonnateur de l'école de rugby du Loup. Comment ça se traduit concrètement avec vos éducateurs et aussi avec les petits? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais le rugby perd aussi des licenciés. Il y a peut-être aussi un lien avec peut-être cette peur de la blessure et du contact, finalement.
C'est sûr qu'il y a un lien, effectivement, entre les deux. Alors, comment on l'a pris en compte au niveau du projet du club du Loup Rugby? Alors ça, je suis intégré, mais je suis pas le seul à avoir réfléchi à ce fameux projet. Mais c'est un projet qui doit irriguer l'ensemble des catégories, des plus petits jusque chez les pros. Donc, c'est une volonté, ça, du coach référent de l'équipe Top 14, Pierre Mignoni, qui a mandaté un certain nombre de personnes au Loup Rugby. Et donc du coup on doit revenir véritablement à l'essence du jeu. Et comment ça se traduit l'école de rugby? Ben, on passe principalement par beaucoup de formes de toucher. Et du jeu, du ballon, de la maniabilité à tous les temps des entraînements pour les plus petits, donc des U6 jusqu'au U12 pour ce qui nous concerne.
Alors, est-ce qu'avec les éducateurs qui étaient plutôt formatés sur des exercices très stéréotypés, c'est pas un petit peu compliqué? Parce que c'est un vrai changement culturel qui nécessite dans sa tête de modifier l'approche des choses, tout simplement.
Vous avez tout à fait raison, c'est un vrai changement culturel, pour moi aussi. On a tous fait pendant de longues années des exercices décontextualisés de la pratique rugby. Je vais prendre un exemple très concret qui pourrait parler aux gens. On va travailler du plaquage en un contre un, face à face, sans forcément de ballon, etc. Et ça, on veut absolument le proscrire aujourd'hui et revenir à des choses qui vont pouvoir se retranscrire dans un match de rugby. Donc tout réfléchir un petit peu autrement aujourd'hui sur notre approche pour que ça corresponde à vraiment des gestes qu'on va reproduire dans un match d'un côté, et de l'autre laisser la possibilité à l'enfant, dès son plus jeune âge, de faire ses propres choix, d'avoir une vraie autonomie dans le jeu.
C'est peut-être sortir de ce rugby stéréotypé avec des temps de jeu très très définis, et puis finalement laisser l'initiative, retrouver un petit peu du French flair.
C'est complètement ça. Enfin, il suffit de regarder ce qui se fait dans l'hémisphère sud. Au-delà des résultats des équipes comme les Blacks et même à moindre mesure les Australiens ou les Sudaf, ils en sont revenus depuis de très très longues années. Donc on a, à mon avis, un petit temps de retard là-dessus qu'on peut, à mon avis, sans problème compenser, et assez rapidement. Encore faut-il le prendre en compte. Mais oui, la dimension physique, le morphotype, il y en aura toujours nécessairement un petit peu. Il y a quand même des gabarits par rapport à certains postes, etc. Mais sans le renier complètement, il n'empêche qu'il faut donner la chance à d'autres types de physique, et avec des jeunes qui auront peut-être une intelligence de jeu supérieure que ce que notre rugby des dernières années a produit.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la notion de catégorie d'âge, elle peut disparaître, parce que finalement, on a des enfants de 6 ans qui sont presque plus grands que certains de 8, et que c'est plutôt par taille ou en fonction du niveau, tout simplement, qu'on analyse, qu'on va essayer de les faire jouer?
Il y a des initiatives, pas en France, mais ailleurs, où ils font des catégories de poids, par exemple, etc. Mais après, il se pose quand même le problème de maturité, parce que si on a un colosse de 10 ans, mais qui a une maturité de quelqu'un qui a 10 ans, ça va peut-être pas suffire pour pouvoir jouer avec des jeunes de son gabarit. Donc je pense qu'il faut un mixte des deux. Je n'ai pas la solution miracle au problème, mais c'est sûr que les années d'âge, C'est pas forcément qu'elles sont amenées à disparaître, mais je pense que elles seront plus poreuses dans le sens où un enfant pourra passer d'une catégorie à une autre, notamment pour les entraînements, de manière un peu plus facilitante que ce qui est fait aujourd'hui en France et en l'occurrence aussi au Loup de rugby.
Alors quand on est dans un club comme le Loup rugby, qui est peut-être un de ceux qui se construisent le mieux aujourd'hui, l'objectif de l'école de rugby, ça reste quand même d'alimenter le haut de la pyramide. C'est quoi? C'est de sortir un Baptiste Couillou ou un Félix Lambet?
Il y a effectivement de très très grosses ambitions au Loup. Aujourd'hui, l'équipe une a de vrais résultats et on sent qu'on est en voie de se pérenniser au très haut niveau. Et l'ambition, elle est exprimée de cette manière-là, à savoir qu'on dans les quelques années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, on va chercher à sortir un joueur minimum par année d'âge au top 6 du top 14, donc du très 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 haut niveau. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux. Il vaut mieux mettre la barre à mon avis très haut. Après, il faut effectivement se donner les moyens qui iront avec, et globalement on va aller vers certainement un peu plus de professionnalisation au fil du temps.
D'accord, et notamment la formation des éducateurs que vous pouvez faire, notamment au titre de l'UFOLEP, pour le coup.
Voilà, c'est fondamental. La formation continue en interne. Bon, il y a déjà les brevets fédéraux que propose le comité FFR, évidemment. Mais en plus, nous, on souhaite avoir des formations internes qui vont avoir une récurrence de tous les mois et demi à peu près, pour mobiliser l'ensemble des éducateurs, et puis aussi pour créer des échanges en dehors de chaque catégorie, hein, parce que c'est souvent, je pense que c'est pas lié qu'au rugby, ça, c'est dans quasiment toutes les pratiques. On est affecté à une catégorie d'âge et puis on a du mal à échanger avec la catégorie du dessous ou du dessus.
Donc pour l'identité du jeu, il faut qu'effectivement...
Voilà, dans l'idée, nous, il faut qu'on crée des temps, des espaces d'échange entre les éducateurs, et puis des temps au-delà de l'échange, vraiment de formation aussi, parce que tous les gens, ou quasiment la plupart des gens qui interviennent à l'école de rugby du Loup sont effectivement bénévoles, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais du coup, certes, ils ont des bonnes intentions, ils ont envie de transmettre, mais voilà, enfin, il faut les accompagner, voilà, il faut se donner les moyens de les accompagner pour gagner en compétences et puis atteindre nos objectifs qui sont conséquents aussi.
Petite dernière question sous forme de clin d'œil, fin de saison, le Loup est dans le top 6.
Ouais, moi j'aurais tendance à dire, au moment où vous me posez la question, le Loup est premier après 7 journées, ce qui est quand même pas négligeable. Moi je pense qu'il y a tout. Il y a le staff, hein, Mignoni et toute sa troupe, on sent que ça tient la route, et il s'est inscrit dans la durée en plus jusqu'en 2022, je crois. Il y a un groupe de qualité avec des tous les postes sont triplés quasiment. Et puis surtout au-delà des résultats, parce qu'il faut pas qu'on s'arrête à ça, hein, c'est un peu comme en école de rugby, il faut pas juste prendre le résultat en tournoi le week-end pour bâtir ses entraînements. Il n'empêche qu'on sent un fond de jeu, il y a un vrai fond de jeu, il y a une alternance, il y a effectivement
du plaisir sur le terrain. On en parlait pour l'école de rugby, on sent que Palisson Boxis qui était un petit peu en dedans, mais il renaît à Lyon.
Entre autres, et puis il y a un mélange des générations qui est intéressant. Vous parliez de Couillou. Couillou, forcément conseillé par Michalak, ça ne peut le faire que progresser, et ça est nécessairement l'ensemble du groupe. Oui, je suis assez confiant. Et puis tout ce qu'a mis en place le club, le stade rénové qui est magnifique à Gerland aujourd'hui, qui est un vrai stade de rugby.
Tout ce qui va se passer autour.
Enfin voilà, il y a un vrai projet. On sent que ça tire tout le monde, vraiment tout le monde vers le haut. Et nous, à notre humble niveau à l'école du rugby, je pense qu'on le perçoit tous.
En tout cas, merci Cédric, et puis bonne continuation.
Je vous en prie, à bientôt. Merci.
Et après cette interview de Cédric Godrige, on continuera à avoir des regards comme ça un petit peu plus profonds que sur la simple actualité en matière de rugby. Mais on va quand même enchaîner comme chaque semaine avec le livre de la semaine. Il vient de sortir, on allait dire comme chaque année, et c'est toujours une mine d'informations, c'est quasiment la bible de tous ceux qui aiment le rugby, avec tous les résultats de la saison et surtout et également de sublimes photos. C'est l'année du rugby 2017, un ouvrage collectif publié chez Kalman Levy. Ça peut être d'ailleurs un superbe cadeau de Noël à faire à tous les amoureux de ce sport, avec en plus une très belle couverture, la photo d'Aurélien Rougerie, champion de France avec la S Clermont-Auvergne, et surtout symbole d'une fidélité sans faille à un seul club et à deux couleurs, le jaune et le bleu, et c'est désormais suffisamment rare pour être souligné. On va aussi quand même adresser un petit clin d'œil en cette fin de magazine à Marco Tolaigne, hein, troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles, mais formé au CSBJ et qui a été appelé dans le groupe France, hein, pour les tests internationaux de novembre, qui verront l'équipe de France affronter successivement la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Japon. On lui souhaite d'être le digne successeur des nombreux internationaux passés par Bourgoin, depuis le premier d'entre eux, et en tout cas un joueur que j'ai moi beaucoup admiré, Jacky Bouquet, dans les années 50. Et vous savez que Passe-Croisée ne serait pas ce qu'il est sans la petite phrase de la semaine que nous allons emprunter cette semaine à Pierre Villepreux, un grand arrière toulousain et du 15 de France, mais également entraîneur de Toulouse et du 15 de France, qui avait eu cette formule qui résume finalement assez bien ce qu'est le rugby. Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. On va vous laisser méditer une petite semaine sur le sujet avant de se retrouver, on vous l'a dit, avec un gros focus sur Saint-Savin-Vinay. Ce sera la semaine prochaine et ce sera dans le numéro 9 de Passe Croisée, et c'est bien sûr toujours sur Couleur FM. Passe Croisée, c'est le magazine du rugby en Orisaire, et c'est sur Couleur FM.